société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition du samedi de Société. Aujourd'hui à l'émission, nous jasons de l'actualité, j'allais dire politico-covidienne, avec nos collaborateurs réguliers, les Frédéric, Frédéric Bérard dans un instant et Frédéric Lapointe un peu plus tard, qui ont d'ailleurs deux points de vue relativement opposés sur la question du déconfinement et du retour à l'école. Nous allons ensuite revenir sur, faire un tour d'horizon, un survol, un bilan de ce qu'on sait et peut-être aussi de ce qu'on ne sait pas à ce jour sur ce fameux coronavirus avec Nima Machouf. Elle est épidémiologiste. Elle a également un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Et puis, en fin d'émission, avec Nicolas Vidal en direct de Paris, nous allons prendre le pouls de ce qui se passe en France, bien sûr, déconfinement là-bas dans deux jours. Alors, bienvenue à Société. Nous allons tout de suite rejoindre Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro. Il est juriste aussi. Bonjour Frédéric Bérard.
Bonjour Nick Payne.
Parlons donc politique un peu, puisque on aime ça faire ça, nous. est-ce qu'on commence par la question, comme vous voulez, on peut commencer par la question des écoles. Ça va tout ensemble de toute façon. Là. Quelle est votre appréciation de la semaine politique là, du gouvernement Legault en particulier et de l'interaction peut-être avec Horacio Arruda qu'on accuse un peu de plus en plus, je dirais, de faire de la politique, hein, d'être un peu trop partie prenante du travail politique de François Legault. C'est peut-être une accusation qui n'est pas justifiée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Hey, c'était une grosse semaine, hein? Cafouillage dans certains cas.
Dans quel cas, vous voulez dire le retour sur certaines consignes ou le report du déconfinement là, à Montréal?
Le report du déconfinement, ça non. Au contraire, moi, à mon avis, c'est peut-être le truc le plus intelligent que j'ai entendu cette semaine et de loin. Moi, je suis presque prêt à laisser un certain sauf-conduit, en quelque sorte, au gouvernement Legault, jusqu'à un certain point, évidemment, dans l'optique où tout se passe vite, c'est compliqué, tout ça, on connaît pas l'impact du virus et tout, mais moi, où j'en ai particulièrement, c'est à l'encontre du docteur Arruda, puis je veux pas jouer au gérant d'estrade, comme il le dirait lui-même, parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de faire ça en démocratie.
Ça a été sa réaction là lorsqu'un journaliste lui a présenté le propos d'une personne qui était, incidemment, pas nécessairement un gérant d'estrade, mais une spécialiste dont j'oublie le nom.
Oui, puis en fait, Nick, franchement, j'ai été dans les premiers, il y a ça 3 semaines, à faire des sorties sur les réseaux sociaux, très, très poli, ça se dit, au début. Contre Arruda, et là, je voyais la volée de pois verts là, qui se déclenchait systématiquement à chaque fois. Et je me suis dit, cet esprit de complaisance ne nous servira pas en démocratie. Et là, je pense que les erreurs se sont enchaînées à un point tel où j'ai l'impression que la population, tranquillement, mais très certainement, est en train de réaliser que peut-être que ce gars-là n'est pas l'homme de la situation. Parce qu'actuellement, au début, on s'entend bien. Les gens le trouvaient comique, les gens le trouvaient rassurant, le gars aussi, ainsi de suite, bon, ça allait bien. Mais là, ça arrive à un moment donné où j'ai vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des cons, et je pèse mes mots. Quand il nous dit que le retour à l'école est nécessaire parce qu'on le base sur le concept de l'immunité collective qui va nous sauver notre derrière collectif, et ainsi de suite.
Ah, mais ça, c'est fini, ça. Là, on a...
Mais ça, c'était le jeudi, vendredi. Retour à l'école, c'est énorme, vous comprenez pas. Il faut absolument, parce que les enfants sont pas porteur du virus, blablabli, blablabla, et ça prend l'immunité collective, et ceci, et ça. Tout de suite après, l'Institut Pasteur sort publiquement pour dire que c'est de la foutaise. Pour que le concept d'immunité collective ait un quelconque impact, ça prendrait 70 % minimum des gens infectés au Québec sans vaccin, ce qui est évidemment pas le cas.
On est bien, bien loin du compte, et il y aurait des dommages collatéraux, comme on dit poliment, en cours de route.
Ben oui, très clairement. Il y a l'Institut national de santé publique du Québec qui est sorti aussi contre Arruda, et là, comme par hasard, le lundi, le retour à l'école est maintenu, mais là, on ne parle plus du concept d'immunité collective. Or, pourquoi Arruda tout simplement pas fait son mea culpa en disant, écoutez, il y a eu une erreur là-dessus, non, effectivement, c'est peut-être trop tôt, ou ainsi de suite, plutôt que de faire semblant qu'il sait tout, mais il n'y a pas de problème, il est en contrôle. Et quiconque vous a critiqué, donc la scientifique en chef du Canada, c'est une gérante d'estrade, puis j'ai pas de compte à rendre à cette dame, je suis désolé, là, mais cette dame en question, elle a 266 publications scientifiques donc révision par les pairs à travers le monde, ça commence à faire pas mal de publications, ça, pour une gérante d'estrade, à mon avis.
Oui, remarquez que Didier Raoult en a des centaines lui aussi, puis oui, ça ne l'empêche pas d'être soumis à de vives critiques.
Non, OK.
Le professeur de l'hydroxychloroquine à Marseille, là, pour ceux qui se demandent de qui on parle.
Mais est-ce que je pense que la conseillère scientifique en chef du Québec n'a pas été radiée de son ordre professionnel?
Non, ah bon, bon point, mais dites-moi, on vous répondrait du côté du gouvernement, peut-être M. Arruda lui-même, qu'on avait dit à l'avance, on fixe telle date, mais si les choses ne vont pas à notre goût, nous allons repousser. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, est-ce que c'était vraiment une reculade, un rétro-pédalage, ou on est dans quelque chose de plus ordonné que ce que vous voulez bien constater, Frédéric Bérard?
À ce que je sache, le retour à l'école à l'extérieur de Montréal est prévu pour 10-48 heures. À moins que j'en ai manqué un bout, là.
Oui, non, on parle de Montréal, évidemment, hein, là, où ça a été retardé.
Oui, ça va, mais moi, c'est passé toutes les espèces de petits trucs quand il dit « J'ai sauvé de 30 à 60 000 vies, pardon ». Non, mais non, c'est vraiment prendre des gens pour des imbéciles, puis là, je passe de côté l'aspect parfaitement vantardé de la chose. Là. Ça a sauvé de 30 à 60 000 vies. En Italie, ils ont à peu près 25 000 morts. Alors qu'ils ont déconné au tout début, c'était là où la pandémie faisait le plus rage, on s'en souvient. Ils sont 70 millions d'habitants. Alors comment tu peux arriver à prendre 60 000? En d'autres termes, à mon sens, ce gars-là disait un peu n'importe quoi. Je vais rajouter la question des masques. Ça, il s'est planté sur un moyen temps aussi. Et la question, c'est que la manière que moi je perçois le pouls des Québécois actuellement, c'est pas tant l'erreur qui dérange. C'est le mensonge, c'est l'espèce de petite bullshit qui s'apparente drôlement à une bullshit politicienne. Et c'est ça qui est problématique, à mon avis. Et c'est ça qui fait en sorte que le lien de confiance s'érode. Au début, on le trouvait comique avec les tartelettes portugaises. On trouvait ça comique là, qu'il y ait faire le Facebook Live de l'humoriste Arnaud Soli. Puis après ça, Guy Jourdouin. Puis après ça, bonjour, bonjour avec Jean-Philippe Vautier. Et après ça, la soirée est encore jeune. Et après ça, le truc de Pierre Lavoie. Puis après ça, la pub de la bière. Sauf que quand tu es directeur de la santé publique du Québec, en pleine période de pandémie, chose qu'on n'a pas connue depuis au moins 100 ans, il me semble que tu peux te garder une certaine réserve.
Ben là, on comprend, Frédéric Bérard, qu'on a affaire à quelqu'un qui, indépendamment de ses compétences, aime plutôt la caméra ou prend goût au rôle qu'il joue actuellement. Ça veut pas dire qu'il n'est pas compétent. Cependant, ça peut pas être notre seul argument.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans les faits, trouvez-moi, l'endroit où Arruda a été, à mon sens, compétent, puis ça c'est déjà démontré, c'est quand il a convaincu Legault de mettre le Québec sur pause plus vite que plus tard.
Rapidement, avant les autres au Canada, et un confinement très, très draconien, là, finalement, ça a sans doute eu des... Oui, on a brillé à ce moment-là, on se trouvait très performant.
Là, on se l'appelle à Bédène, le nationalisme... You, on était là, oh là, je te jure, ça s'auto-flattait la bédaine nationaliste à fond la caisse, puis c'est correct, ça va. Là, sauf que là, aujourd'hui, on a deux tiers des morts au Canada. Et là, j'entends les gens, oui, mais c'est parce qu'on a plus de vieux qu'ailleurs. Mais c'est quoi cette connerie? On n'a pas plus de vieux qu'ailleurs. Arrêtez-moi cette folie-là.
Ah ben là, selon M. Arruda, c'est aussi à cause de l'incidence là, de la semaine de relâche. Et ça a été assez bien démontré là, que le Québec, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, cette étude des déplacements par téléphone cellulaire là, au Québec. Et précisément, au pire moment possible, les Québécois ont beaucoup bougé, là, c'est-à-dire pendant la semaine de relâche d'une région à l'autre, et semble-t-il que ça a été un facteur déterminant là, dans notre performance relativement mauvaise là, au niveau
Idéalement, on aurait dû, passez-moi l'expression, là, tirer la plug plus rapidement. Mais voyez, même pour ça, je lui lance pas la pierre, parce que l'Occident, de manière générale, était un peu sur les talons, pris au dépourvu. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mettre l'économie sur pause, c'est pas quelque chose qu'on fait très fréquemment, on s'entend bien. Mais moi, c'est par la suite. Comme je vous dis, c'est l'immunité collective, c'est les masses, c'est le 30 à 60 000 morts. Là, il y a un retour à l'école qui s'en vient lundi. Ah ben.
Bon, alors ça, parlons-en. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, je pense. Vous citez cette mère de famille qui écrivait dans Le Devoir cette semaine qu'elle n'enverrait pas sa fille à l'école. Dans un texte assez étoffé, là, c'est pas une critique noire ou blanc. Elle explique que les professeurs sont mal protégés, que le système n'est pas en mesure d'accueillir la quantité d'élèves, beaucoup d'élèves, et pour toutes ces raisons, toutes sortes de raisons, elle ne veut pas envoyer sa fille à l'école. Cependant, quelqu'un d'autre pourrait vous dire, il y a cette enseignante Martine Bouliane à la CSDM qui, elle, au contraire, blâme son syndicat. Hein, elle dit, j'ai l'impression que les syndicats d'enseignants veulent faire avorter le retour à l'école pour des raisons plus corporatistes qu'humaines ou humanitaires, si on veut. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est de la diversion, c'est de la distorsion. Ça ne m'intéresse pas réellement. L'opinion de X versus l'opinion de Y, moi, ce que je sais actuellement, puis je ne pense pas vous donner mon opinion justement en vous disant ça, c'est la chose suivante. C'est qu'actuellement, la pandémie fait rage, notamment à Montréal. On vient de déconfiner en partie, qui fait en sorte que les Montréalais s'en vont en région. Les Montréalais s'en vont en région pour Chalet, pour voir ci, pour voir ça, Y. C'est certain.
Ce qui ne fait pas beaucoup plaisir hein, en région en ce moment.
Je suis à Saint-Michel-des-Saints au moment où je vous parle. Les gens sont paniqués et j'habite... je suis né à Mont-Laurier, en fait, et je fais de la radio là quotidiennement, et les gens sont aussi paniqués. Et donc, là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir une contamination. Et si on vient à la question des écoles, très précisément, je pense pas inventer quoi que ce soit si je vous dis que dans une garderie de Mascouche, pas plus tard que cette semaine, il y a 8 enfants qui l'ont attrapé, le COVID, et il y a 4 éducatrices qui l'ont attrapé aussi.
Oui, alors ça, on va voir ça avec Nima Machouf dans quelques instants. On va comment ça a pu se produire quand on nous dit que les enfants sont très peu contagieux.
Alors ça paraît pas jusqu'à maintenant. Puis c'est moi, à voir. Ce qui me fait craindre le plus, Nick, ici, et là, je pense me fier à la science en disant ça, c'est justement que la science est incertaine. Il y a des cas, une vingtaine de cas à Sainte-Justine, en tout cas, ça, c'était il y a 3-4 jours, c'est peut-être plus maintenant, une maladie inflammatoire rare qu'on appelle la maladie de Kawasaki et qu'on semble reliée au coronavirus. À Paris, il y a une sortie de presse d'un hôpital X qui disait exactement la même chose, au Royaume-Uni aussi, à Londres et à New York. Donc, est-ce que c'est dangereux, le coronavirus, pour les enfants? On ne sait pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Assurément pas. Mais à quel point c'est dangereux, on n'est pas au courant.
Mais là, on pourrait vous répondre que notamment, je ne parlerai pas du Danemark parce qu'il y a vraiment trop peu de cas là-bas, mais en Suède ou en Allemagne, en Suède, on n'a jamais fermé les écoles et le bilan de la Suède n'est pas nécessairement reluisant non plus, remarqué, mais on ne dénote pas de cataclysme dans les écoles. En Allemagne, les écoles ont été rouvertes et ça semble être le cas là aussi.
L'Allemagne est retournée en confinement. Et maintenant, ce que j'essaie de dire par ça, c'est que je ne sais pas, moi, si le COVID-19 est dangereux à moyen long terme pour les enfants au-delà du fait de l'attraper. Je ne sais pas. La réalité, c'est que de ce que je comprends, la science ne le sait pas non plus encore. Elle est en train de le découvrir. Et là, il y a des maladies inflammatoires potentiellement rattachées à ça et tout, mais quelle est l'ampleur de ça? On ne le sait pas. Or, la réponse du gouvernement Legault, puis j'ai eu assez de prise de bec avec certains de ses représentants dans les derniers jours. La réponse à ça, essentiellement, si je la résume, c'est de dire, ben, vu que la science n'est pas claire, ben, on va les envoyer à l'école, puis c'est ça.
Mais là, j'ai l'impression que votre divergence avec vos adversaires dans ce dossier-là, elle est précisément là, parce que d'autres disent, au contraire, on joue à se faire peur. Les publications scientifiques à ce jour nous disent qu'il n'y a pas de danger pour les enfants et que les cas qu'on cite pour justement pour se faire peur un peu sont des cas exceptionnels. Où, comme vous dites, le fameux syndrome de Kawasaki qui demeure très rare, là, somme toute, mais qui, effectivement qui se produit. Alors, est-ce qu'on n'est pas davantage dans deux états d'esprit que dans deux constats très objectifs?
Peut-être que vous avez raison. Auquel cas, je plaiderai à ce moment-là le principe de précaution. Mais dans tous les cas, si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas le principe de précaution, je vais vous dire la chose suivante. Ce qu'on est à peu près certain, c'est que tout ça va très, très vite.
C'est qu'on n'est pas certain de grand-chose, oui.
Bien, on ne sait rien. Ouais. Et là, il y a des gens, justement, le gouvernement Legault, qui me disent « Ah oui, là, voici telle étude sur l'influenza. Le risque zéro chez les enfants, ça n'existe pas. » Non, mais parce que je comprends ça. Mais l'influenza, c'est fouillé, c'est documenté, ça a été testé. On sait de quoi il en retourne. Le COVID-19, non. Il semble que ce n'est pas sorti à comprendre. Donc, est-ce qu'on peut attendre? Là, on les retourne à l'école de lundi, pour une durée de quoi? 4 à 5 semaines, à tout casser. Ces enfants-là n'auront pas accès au gymnase, pas de récréation probablement, pas accès à l'art, pas accès à la musique, et ainsi de suite. et ce ne sera pas de l'apprentissage non plus, parce qu'on ne veut pas créer un système asymétrique. Donc, ils vont être assis à leur pupitre. On leur dit de respecter le 2 mètres. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, Nick Payne, qui croit que des enfants de 4, 5, 6 ans vont respecter le 2 mètres, alors que plusieurs écoles au Québec n'ont même pas de corridor de 2 mètres? Et le prof en question va être habillé comme un goaler de hockey, avec un masque, une visière. Non, mais quelle atmosphère absolument formidable.
Ben, écoutez, ça va nous replonger dans l'ambiance des séries.
Mais... Oui, ben, c'est peut-être ça qui nous manquait. Puis pour terminer, peut-être, moi, ceux qui me disent, oui, mais là, la DPJ, blablabla, les pédiatres et tout. Premièrement, les pédiatres, ce ne sont pas des spécialistes d'épidémie. Première des choses, hein. Et peut-être que c'est mieux pour l'enfant d'aller à l'école, mais peut-être qu'il faudrait évaluer ces conditions-là. Puis sur la question des enfants vulnérables, chose qui me touche particulièrement, je suis pas si certain que ça, moi, que les parents de ces enfants vulnérables-là, pour toutes sortes de raisons, que ce soit économique, au niveau violence ou autre, vont nécessairement se dépêcher de les envoyer à l'école. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais puisqu'il s'agit d'un libre choix, c'est pas clair qu'il y a une corrélation parfaite entre les deux. Et si tel était le cas, pourquoi pas le faire au secondaire aussi, quoi? Les enfants vulnérables secondaires sont moins importants que les enfants vulnérables de sixième année. Donc, ça pour dire que c'est parfaitement arbitraire et ne soyons pas dupes. Le gouvernement Legault veut réouvrir les écoles primaires pour une seule chose.
Pour qu'on puisse aller travailler, bien sûr.
C'est pour parquer les enfants pendant que les parents aillent travailler. Point à la ligne. Au début, on pensait le justifier avec une immunité collective. Arruda l'a eu dans les dents avec l'Institut Pasteur et l'Institut national de santé publique du Québec. Il a dit OK, ben c'est bon, on n'en parle plus. Mais là, on fait ça. Puis sa réponse, c'est j'espère qu'il n'y aura pas trop de morts. Ah ben, tu vois, c'est quand même une approche assez positive.
Est-ce que c'est vraiment seulement pour permettre aux gens d'aller travailler? Je vous trouve un peu cynique, mais on n'en sait rien, comme vous dites. Vous avez dit que, en terminant, Frédéric Béran, vous avez dit que c'est un sujet, les enfants vulnérables, qui vous touchent particulièrement. Pardon d'aller là, mais vous y êtes allé vous-même. Vous avez des proches où c'est un sujet qui vous interpelle, tout simplement?
Oui, c'est beaucoup plus personnel, mais...
Alors, oui, bon, on n'est pas obligé, non, mais je comprends, donc
non,
vous
non,
avez...
Non, c'est pas un problème, j'ai moi-même pas, je n'ai pas été victime de ce type de violence-là à titre personnel, mais je viens d'un milieu, disons-le, très, très défavorisé à toutes sortes de points de vue, et j'ai côtoyé plusieurs enfants à partir de la maternelle jusqu'au secondaire, mais des cas... Je ne réalisais pas à quel point il pouvait être grave, même si je me disais bien que quelque chose ne tournait pas rond. Mais quand on vit là-dedans, on n'a pas nécessairement le recul nécessaire. Mais aujourd'hui, avec la rétrospective que j'ai, vivant ailleurs à Montréal et tout ça, dans des milieux, disons, beaucoup plus guindés et tout, je réalise que ça a été un échec social de laisser ces enfants-là dans des situations comme celle-ci.
Et alors, mais alors, justement, peut-être qu'à l'heure actuelle, Montréal est un cas particulier, vu certaines zones de pauvreté où on laisse justement des enfants défavorisés dans des milieux terribles alors qu'ils pourraient retourner à l'école au plus vite. Ça peut être un argument dans l'autre sens.
Oui, tout à fait. Puis qu'on se comprenne bien, je n'ai certainement pas la prétention d'avoir la solution. Ça, c'est assez évident. Mais une fois qu'on a dit ça, il me semble que celle qui est choisie actuellement, regardez juste avec la garderie, c'est problématique. Puis pensez aux profs de seconde. Voyons, on vient de remonter l'âge. De 60-69 ans, ça a toujours été problématique. Puis là, ça ne l'est plus.
Oui, ça et l'est moins d'après... oui. Il faut qu'on vous laisse, Frédéric Bérard. Allez vous défâcher un peu, mais...
Non, mais je ne suis même pas fâché. Ça me fait toujours très plaisir de vous parler des fins à samedi midi.
Certainement. C'est ma formule habituelle. Allez vous défâcher.
Vous êtes très fort. Allez, je ne suis pas fâché du tout. Et amusez-vous avec vos autres invités qui seront peut-être plus scientifiques que moi.
Ben, on a l'autre Frédéric qui va vous contredire dans un instant. Écoutez ça. Merci, Frédéric Bérard.
OK, à bientôt.
À une prochaine. Salut. Alors, on cherche toujours Frédéric Lapointe. Nous allons donc plutôt recevoir Nima Machouf dans un instant, puis on reviendra à Frédéric Lapointe pour poursuivre le débat sur le déconfinement et le retour ou non à l'école. Nima Machouf, nous allons lui parler parce que nous sommes en face d'une pluie de données contradictoires parfois, hein, si bien qu'on ne sait plus très bien à quel sein se vouer, tantôt l'immunité collective, tantôt ça ne fonctionne plus, d'abord pas de masque, ensuite le masque, et puis après, quoi encore, on confine de façon draconienne et ensuite on déconfine très rapidement. Alors, tout ça soulève toutes sortes de questions. On a eu envie de faire un survol, revenir sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, quelles conclusions, si ce mot est approprié, on peut tirer à ce moment-ci. Donc, elle est chercheuse, épidémiologiste. Elle est détentrice d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. C'est donc quelqu'un qui a fait un choix de carrière, ma foi, visionnaire. Je parle de Nima Machouf. Bonjour, Madame Machouf.
Bonjour, comment allez-vous?
Ah ben oui, moi ça va bien, j'espère. Je ne crois pas avoir le coronavirus, vous non plus?
Non, moi non plus.
Ben justement, ça fera partie de nos questions, là, parce qu'il paraît qu'on peut être porteur sans le savoir. Mais je commence par le commencement. Là, depuis le début de cet épisode, un peu abracadabrant pour nous, simples mortels qui ne sommes pas épidémiologistes comme vous, Nima Machouf, on entend des informations qui sont sans cesse démenties par la suite par des manchettes qui nous font douter. Je pense, par exemple, j'y vais dans l'ordre ou dans le désordre, à la question des enfants, par exemple. On nous a dit ils sont peu affectés par le virus, ils sont aussi peu, ils le transmettent peu. Et là, soudainement, on apprend qu'il y a, par exemple, un foyer, une éclosion dans une garderie à Mascouche. Et puis, on entend parler du syndrome de Kawasaki. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on a affaire ici à des exceptions qui confirment la règle ou est-ce qu'on apprend du nouveau là-dedans?
On apprend beaucoup de nouveau. À chaque jour, on en apprend avec la COVID. C'est pas une maladie facile. Le virus, il est très malin. Il se camoufle. Pendant 2 semaines, il peut être chez nous sans qu'on le sache et qu'on le propage. Puis au début, vous m'avez demandé si j'étais infectée. Dans le fond, on le sait pas, ni moi, ni vous. On le sait pas si on est infecté ou pas, mais on n'a pas de symptômes. Puis on sait pas. Mm-hmm. Alors, on en apprend, c'est vrai. On en apprend à tous les jours. Les enfants, on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'ils s'infectent, mais ils sont comme résistants par rapport à la maladie dans le sens où ils ne développent pas de complications.
Alors ça demeure vrai, là. Outre certains cas un peu plus spectaculaires, il reste que on peut dire que de façon générale, ils sont moins touchés, moins durement, là, lorsqu'ils deviennent malades.
Ils sont moins durement touchés. Est-ce qu'ils l'attrapent moins? Ça, on n'a aucune donnée qui dit que les enfants ne l'attrapent pas. Mais on a des données qui nous disent qu'ils l'attrapent, que les enfants attrapent aussi la maladie. C'est peut-être ils sont juste moins en contact. C'est à cause de ça qu'ils l'attrapent, qu'ils l'ont moins souvent. Mais ils l'attrapent. Et les enfants, ce qu'on sait, chez ceux qui ont été infectés, c'est rare qu'ils développent des complications. Les décès sont extrêmement rares. On est quand même proche de 4 millions de personnes à travers le monde qui sont infectées aujourd'hui avec le virus de la COVID. Mm-hmm. Il y a très, très peu d'enfants qui ont été gravement atteints. Et ceux qui ont été gravement atteints, c'est parce qu'ils avaient une autre maladie chronique.
Bien sûr, c'est ça.
En sorte que le système ne répondait moins bien. Alors, dans le cas de la garderie à Mascouche, on ne sait pas si c'est un enfant qui a amené l'infection à la garderie, si c'est un adulte qui l'a amené, on ne sait pas. Il faut, justement, dans des cas où il y a des éclosions, dans des cas où il y a une personne qui est infectée, qui a été diagnostiquée, la santé publique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait le retraçage des contacts, mm-hmm. qui est un élément extrêmement important dans le contrôle de l'épidémie. Parce qu'il faut qu'on comprenne, il faut qu'on apprenne qu'est-ce qui a fait que le virus s'est immiscé là, comment il a pu se partager, se propager entre les gens qui étaient dans le même environnement.
Alors voilà, donc, pardon de vous...
on met des mesures en place pour éviter de la transmission plus forte.
Oui, voilà, en se croisant les doigts pour qu'elles fonctionnent et qu'elles aboutissent, oui. Ces mesures, parce qu'on entend dire parfois que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. On a vu l'appel du docteur Arruda hier en conférence de presse envers les personnes qui ne coopèrent pas toujours là, lorsqu'on essaie de justement retracer les contacts autour d'elles ou faire des liens épidémiologiques, justement. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, on vient de débusquer déjà peut-être une première de clarification. Vérifier une chose, pour le moment, selon ce qu'on sait, il demeure vrai, on peut raisonnablement dire que les enfants sont touchés moins gravement. On n'est seulement pas certain de la façon dont à quel point ils transmettent moins ou davantage le virus que les autres, si je comprends bien. Là.
Oui,
c'est un peu
tout
ça.
À fait. Tout à fait. Ça, on le compare par rapport à l'influenza, où l'influenza, normalement, les jeunes enfants le transmettent très facilement.
Ah
et
bon?
Beaucoup plus vite. Normalement, on envoie notre enfant à la garderie, la première fois qu'il arrive à la garderie, toute la maisonnée, tous les membres de la maison pendant 6 mois, on est malade. Hein?
Toute la famille, oui. Mais c'est peut-être aussi parce que les enfants, ben, ça vous touche, n'applique pas nécessairement les mesures d'hygiène les plus pointues. C'est probablement aussi ça qui joue.
Oui, vous avez raison.
Une autre nouvelle qui s'est contredite d'une certaine façon, c'est sur la question de l'immunité. Ou de l'immunisation, je ne suis pas certain de l'emploi des termes, là, mais on nous a dit au départ, mais coronavirus, comme plusieurs autres virus, on est probablement un au terme du... Enfin, après avoir eu la COVID-19, on aura probablement des anticorps pendant un certain temps nous permettant d'être protégés. Et là, par la suite, des manchettes nous ont indiqué que, attention, on a fait état de certaines personnes qui ont attrapé de nouveau la maladie. Est-ce que c'est vrai ou on était encore en face de cas atypiques ou qui avaient eu peut-être des tests, des faux positifs ou négatifs au départ, je ne sais trop. Qu'en est-il de ce côté-là?
Ça non plus, c'est pas de démentir ce qui a été dit. C'est que maintenant, aujourd'hui, on est habitué. On a développé cette habitude d'avoir toute l'information très, très rapidement. Alors, toute l'information très, très rapidement, mais des fois, ce qui est rapporté, ce sont des exceptions qui sont rapportées. C'est pour ça qu'une fois qu'un chercheur ou une chercheuse a fait une étude, il faut que beaucoup d'autres fassent la même étude pour voir est-ce que eux aussi, ils trouvent les mêmes informations, les mêmes résultats, les mêmes conclusions. C'est pas parce que une fois, quelque part, des exceptions ont été vues, des cas ont été vus que c'est la norme. C'est peut-être une exception. C'est peut-être aussi la norme, mais il faut que cette évidence se retrouve ailleurs et se reconfirme. Donc, il ne faut pas dire que ça a été démenti, mais ce sont des informations qu'on obtient petit à petit. N'oubliez pas, ça fait juste 5 mois qu'on connaît le virus. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup à apprendre et c'est un virus qui est très malin. Alors,
voilà.
À chaque jour, on apprend des nouvelles choses.
Mais voilà, donc, la notion du démenti ou de la contradiction, je l'amenais un peu à dessein, sachant qu'elle n'est pas scientifiquement exacte. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans la perception populaire, si on regarde vite les manchettes, on a l'impression que la science se contredit. Mais en fait, non, il s'agit d'un constat plutôt général ici, à travers lequel, hop, il y a eu une fausse note ou une note discordante parce qu'effectivement, dans certains cas très précis, il y a des différences. Mais donc, si je comprends bien encore là, est-ce qu'on peut raisonnablement présumer que quiconque développe le syndrome, attrape la maladie, est malade de la COVID, aura par la suite une protection pendant au moins un certain temps?
Oui, et les fausses notes dont vous parlez, en fait, ce sont des notes extrêmement importantes pour la science parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui n'obéissent pas aux mêmes principes, qui ne développent pas la même type d'immunité et tout ça. Mais globalement, avec toutes ces personnes, c'est presque 4 millions de personnes à travers le globe qui sont infectées, il y a quand même très peu de gens peu de gens qui ont été rapportés dans la littérature avec une seconde infection. Donc, tout ça nous porte à croire qu'on développe une immunité. Et c'est pour ça qu'il y a des millions de dépensés maintenant à la découverte des vaccins. Parce que si on ne développait aucune immunité, il n'y aurait pas eu raison qu'on s'attarde à essayer de développer un vaccin.
Ah, parce que le vaccin, notre capacité de faire un vaccin dépend du fait qu'une immunité est possible ou non là, face à cette maladie-là.
L'idée du vaccin, c'est qu'on développe une immunité contre le virus pour pas qu'on l'attrape, pour pas qu'on soit affecté par le virus.
Donc, le vaccin nous amène nous-mêmes à développer cette immunité, autrement dit.
Oui, des anticorps, exactement.
OK, je comprends.
Donc, si la science nous disait que il y a personne qui développe de l'immunité, on n'aurait pas dépensé des millions pour essayer de trouver un vaccin. Donc, on voit qu'il y a très peu de gens qui l'attrapent une deuxième fois. On voit qu'il y a des anticorps qui sont produits dans le sang. Et donc, tout ça, c'est de l'espoir.
Vous nous éclairez, Nima Machouf. Un autre espace de confusion, de doute, c'est dans la valse des masques. Alors, au début, les autorités de santé publique, pas seulement au Québec, on pense au cas de la France notamment, parce qu'on le suit d'assez près d'ici, vu la proximité culturelle, les autorités ont commencé par dire, bon, vous savez, le masque, surtout s'il est mal utilisé, c'est plus ou moins utile, ça peut même être dangereux. Enfin, on n'insistait pas beaucoup sur disons, les aspects positifs et du port du masque. Et là, on est rendu ailleurs là-dessus. On a même vu le docteur Arruda hier qui portait un masque. Est-ce qu'on a évolué là-dessus ou est-ce que c'est parce qu'on a eu la politique une espèce de politique de pénurie, au fond? Il ne fallait pas trop inciter les gens à se précipiter sur les masques parce qu'on n'en avait pas assez. Ou est-ce que la science a évolué? Bref, est-ce que c'est utile, un masque? Prenons pour acquis qu'on s'en sert correctement. Là, déjà.
Un masque est utile, moi je dirais. Moi je porte le masque. À chaque fois que je quitte pour aller à l'épicerie, je porte le masque. Le masque, je trouve qu'il est utile, ou du moins, même si on a des doutes sur son utilité, la prudence est de mise. Alors, c'est vaut mieux l'utiliser que ne pas l'utiliser. Et ce que j'ai bien aimé hier dans le point de presse de Dr Arruda, c'est qu'il a dit « Maintenant, le masque fait partie de l'étiquette respiratoire. » Si on pense que, et dès le début, on nous a dit qu'il faut éternuer dans le pli du coude, ben c'est mieux éternuer dans son masque que d'éternuer dans le pli du coude.
C'est d'ailleurs ce qu'il a dit lui-même, Dr Arruda, je crois.
Exact.
Oui.
Exact. Donc, à mon avis... ils auraient pu le dire dès le départ, mais c'était à cause de la pénurie des masques. Ils ne voulaient pas que tous les N95, les gens se ruent là-dessus pour avoir tous les N95. On n'en a pas besoin de un. De deux, il fallait que tous ces masques-là soient réservés au personnel soignant qui en ont le plus besoin, parce que dans certaines manipulations qu'ils font, ils ont besoin d'avoir une protection supplémentaire. Mais nous, le commun des mortels qui nous promenons en ville, avec un masque fait maison en tissu 3 couches, on est suffisamment protégé. Et quand je dis protégé, ils nous ont dit que c'est pour protéger les autres. Mais c'est correct, protéger les autres, c'est énorme, sachant que 30 à 50% des gens n'auront pas de symptômes, donc ne vont pas savoir s'ils sont en train de transmettre ou pas des virus. Mais si on porte tous des masques, si, même si on est infecté et on ne le sait pas, ben on va pas transmettre.
Donc, ben évidemment, alors déjà, et donc oui. Protéger les autres, c'est ultimement se protéger soi-même, si on croit
absolument.
Au grand portrait des choses.
Justement,
vous m'amenez à ma prochaine question. Où est-ce qu'on en est là-dessus, sur le fait d'être contagieux lorsqu'on n'a pas de symptômes? Est-ce que c'est toujours vrai, ça?
Oui.
Est-ce que c'est une particularité de ce coronavirus-là?
On est toujours infectieux si on n'a pas de symptômes. C'est pas juste ce coronavirus qui fait ça. Moi, je travaille dans le domaine du VIH, et dans le domaine du VIH aussi, c'est la même chose. Les gens peuvent être sans symptômes et transmettre l'infection, transmettre le virus, parce que le virus est là, il ne s'est pas juste manifesté cliniquement encore. C'est une question de comportement du virus dans le corps humain. Il arrive, il s'installe chez nous, il se multiplie. Avant que nous, on développe des symptômes, il s'est beaucoup multiplié et on peut le transmettre, surtout dans le cas du COVID. Il se transmet par des gouttelettes ou aérosol, on ne sait plus trop si ça se transmet ou pas par aérosol, mais ben, bref, ça se transmet par voie aérienne. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est un contact qui est beaucoup plus facile qu'un contact sexuel proche qui est nécessaire pour la transmission du VIH, par
exemple. Du VIH, oui, en effet. Justement, ce sera probablement ma dernière question. Le temps nous bouscule un peu. Les fameux aérosols, les gens n'ont pas tous compris, je pense. On parle de gouttelettes à travers lesquelles, par exemple, quand on postillonne déjà, là, on peut transmettre le virus à quelqu'un d'autre ou infecter. Je ne sais pas quel est le bon terme encore ici. Vous serez meilleur, vous me corrigerez. Mais les aérosols, donc, l'aérosol, c'est une forme de vapeur, au fond. Hein? Ce sont des gouttelettes presque microscopiques qui restent longtemps en suspension. Oui. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que, si je suis assis dans la même pièce que quelqu'un qui est à plus de 2 mètres que moi, par exemple, 2 mètres étant la norme de distanciation prônée à ce jour-là, est-ce que en respirant le même air que quelqu'un dans un endroit relativement exigu, je peux finir par contracter le virus moi aussi par les aérosols?
Mais on ne le sait toujours pas. Alors, encore une fois, dans le doute, vaut mieux prévenir.
Principe de précaution.
Oui, principe de précaution. C'est à cause de ça qu'ils disent que dans les autobus, dans les endroits clos, vous prenez l'ascenseur, portez le masque. Comme ça, si vous avez des virus, vous êtes sûr de ne pas le propager ou de moins le propager. Puis les autres sont sûrs qu'ils ne vont pas l'attraper. C'est juste réduire le contact. Il faut qu'on réduise le contact pour réduire la possibilité de s'infecter et d'infecter les autres.
Alors, on en revient au principe de précaution, toujours, finalement. Nima Bachouf,
absolument.
C'est très apprécié. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Je sais que vous parlez de ça continuellement ces jours-ci, mais bon, c'est votre domaine, donc on présume que vous ça ne vous lasse pas trop pour le moment.
J'adore ça.
Oui, et puis on vous reparlera sans doute un autre jour. Je n'ai pas fait état du fait que vous avez aussi été candidate du NPD dans... comment ça s'appelle? Laurier-Sainte-Marie.
Oui.
On vous y reverra peut-être. Mais je ne prête pas des intentions. Merci d'avoir été avec nous ce midi.
Merci à vous.
Au plaisir.
Au revoir.
Dans un instant, quelques secondes avec Frédéric Lapointe, puis ensuite, on s'en va à Paris. À tout de suite. Alors, il est fondateur de la Ligue d'action civique. Il s'intéresse aux chiffres, aux statistiques aussi beaucoup. Il est dans le domaine de l'éducation également. Frédéric Lapointe est avec nous. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Alors, Frédéric Béra, l'autre Frédéric, était en onde avec nous il y a quelques instants. Il nous expliquait son scepticisme par rapport au déconfinement en ce qui a trait particulièrement là, au retour à l'école. Il nous présentait le point de vue de ceux qui disent « dans le doute, on s'abstient, les choses ne sont pas encore assez claires et la science n'est pas si convaincante que ça en ce qui a trait au degré de dangerosité de ce virus pour les enfants notamment. » Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, non?
On peut s'interroger sur la propagation de la maladie qui serait facilitée ou favorisée par un plus grand nombre de déplacements d'enfants, par un plus grand nombre de déplacements d'employés, les profs, et le transport scolaire, etc. Mais les données scientifiques à l'heure actuelle nous donnent à penser que les enfants sont hors de danger en ce qui a trait à l'épidémie actuelle. Les seuls cas, quand je parle d'enfants, on parle de 11 ans, 12 ans et moins. Là, il y a des cas d'adolescents qui sont décédés de la COVID, des gens de 16, 17, où c'est arrivé.
Mais oui, qui avaient des facteurs de comorbidité, là, qui avaient d'autres maladies chroniques, par exemple.
À l'occasion. Mais pour les enfants de moins de 11 ans, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'à l'échelle de la planète, là, pour des centaines de milliers ou des millions d'infectés, il y a eu 20 décès et les 20 individus avaient des antécédents médicaux, des conditions médicales. Donc, il n'y a pas grand-chose sur la planète qui provoque un taux de mortalité de 0% et qui, par ailleurs, suscite des craintes énormes dans la population. Je pense que nous n'avons pas à avoir peur pour nos enfants. Maintenant, il y a des décisions de santé publique qui ont trait à la propagation de la maladie. Et je suis convaincu que les autorités sont très, très sensibles à ça. Mais dire qu'on va fermer les écoles parce qu'on a peur pour nos enfants, scientifiquement, me semble un non-sens. Maintenant, on peut vouloir les garder avec soi, mais vouloir fermer les écoles pour des raisons scientifiques qui n'existent pas, alors qu'il y a des gens, des enfants au premier chef, mais des travailleurs aussi, qui ont besoin que les écoles soient ouvertes.
Mais alors que les deux choses, que les enfants, par exemple, contaminent les adultes, les profs autour d'eux, est-ce que ça vous pose un problème? Eux sont plus en danger. C'était le propos de cette mère de famille qui écrivait dans Le Devoir cette semaine, « Ma fille ne retournera pas à l'école ». Et aussi, autre question, les enfants en difficulté, les décrocheurs, là, pas les décrocheurs, les enfants en difficulté ont dit ben, « De toute façon, ça ne sera pas la vraie école. On va les envoyer un peu se tourner les pouces dans une grosse garderie. » Qu'est-ce que vous répondez à ces deux arguments-là?
Je pense que les gens ont le droit de commenter en tout temps, y compris durant la pandémie, sur leur niveau de satisfaction par rapport aux services rendus à l'école. Mais jamais, je le répète, jamais ça n'a été un argument suffisant pour priver de services éducatifs des gens. Là, l'école n'est jamais parfaite. Alors, ceux qui attendent qu'elle soit parfaite pour la réouvrir en temps de pandémie, ben ils fixent des conditions assez irréalistes. C'est des arguments d'un niveau assez faible.
Mais c'est donc dire que, d'après vous, le service donné aux enfants, même en cette période-ci, serait utile et valable?
Il est utile, il est valable. Les professeurs et les autres employés sont payés pour le rendre. Hein? L'école, en temps normal, la fréquentation est obligatoire pour de bonnes raisons. Maintenant, elle n'est pas obligatoire. Et donc, ceux qui la fréquenteront sont ceux qui le souhaitent et ceux qui en ont besoin. Maintenant, comme certains députés que j'ai entendus, on peut juger du fait que certains parents ont moins le choix que d'autres. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour fermer l'école. C'est une raison pour la rouvrir, puisque certains parents en ont davantage besoin que d'autres. Certains enfants en ont davantage besoin que d'autres. Maintenant, pour les employés, je veux bien compatir.
Oui, pour le risque de propagation, là, oui.
Je veux bien compatir avec leur sentiment là, de danger et tout ça, mais la réalité, c'est que les professeurs peuvent se protéger aussi bien, sinon mieux, que les caissiers dans les épiceries, que les infirmières dans les hôpitaux, et certainement plus que les préposés aux bénéficiaires à qui on demande de soigner des gens dans les CHSLD. Leur niveau de risque est assez faible quand on le compare à d'autres employés à qui on demande d'assurer des services essentiels.
Même alors, auprès de jeunes enfants là, qui courent partout et qui auront beaucoup de difficultés à respecter la distanciation de 2 mètres, on s'en doute bien, là.
Bien sûr, les enfants sont peu susceptibles de l'attraper. Il y a des études un peu contradictoires, j'en ai lu plusieurs, là, mais il y a plusieurs études qui font état d'un taux de contagion très faible entre les enfants entre eux et dans des milieux familiaux, les enfants semblent attraper des parents et pas le contraire. Mais il y a des études qui vont dans toutes les directions. Il y en a d'autres qui, se penchant sur les enfants malades, arrivent à la conclusion qu'ils ont des charges virales importantes. Bon, ce n'est pas une étude de contagion, c'est une étude de charge virale. Donc, oui, il y a des études dans toutes les directions, mais il reste que les enfants entre eux ne sont pas en danger. Ils sont peu contagieux entre eux. Et les professeurs, bien entendu, ils ne vont pas se mettre à faire la bise à leurs élèves. Ils ne le faisaient pas avant. Ils ne sont pas censés non plus les prendre par le cou, les prendre par les bras. Hein? Ils ne le faisaient pas davantage avant. Et donc, il faut protéger les professeurs. On va plus loin puis on sépare les élèves de 2 mètres chacun pour que tout le monde ait un sentiment de sécurité, alors qu'au fond, la probabilité qu'ils l'attrapent est faible et la probabilité qu'ils tombent gravement malades est à peu près nulle. Donc, on fait beaucoup de choses dans le système d'éducation pour rassurer les gens, pour que les gens retournent travailler, pour qu'un certain nombre d'élèves y aillent et qu'ils pratiquent une forme de distanciation sociale. Mais je le répète, si on attend que les choses soient parfaites et 100%.0% sans danger, ce n'est pas vrai en temps normal, ce n'est pas davantage vrai en temps de pandémie, mais le risque n'est pas assez élevé pour justifier la fermeture des écoles, du moins quand on considère la santé des enfants et la santé du personnel. Maintenant,
Frédéric Lapointe,
si des gens se promènent et des employés se promènent, c'est sûr que ça favorise la propagation? Ça, c'est une autre question qui est dans de la santé publique.
Alors, on y reviendra. C'est un propos très clair. Frédéric Bérard pourra réfléchir à ça et nous reparler la semaine prochaine, vous aussi sans doute, très bientôt. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique. On se reparle sous peu. Chers auditeurs, dans un instant, en direct de Paris, Nicolas Vidal nous parle de l'état d'esprit des Français à l'avant-veille du déconfinement là-bas. Alors, il est le fondateur, le grand patron du média Putsch. Oui, Putsch Média, à Paris, Nicolas Vidal, très occupé ces jours-ci à recevoir en entrevue, en duplex, toutes sortes de personnalités politiques et de santé publique et autres françaises. Bonjour, Nicolas Vidal.
Bonjour, cher Nick.
Alors, vous vous préparez à un déconfinement à géométrie variable en fonction du niveau là, de la pandémie, si on veut, de propagation du virus, selon les régions, des régions classées vertes, d'autres rouges, d'autres jaunes, je crois, si je ne m'abuse. Vous m'expliquerez mieux, sans doute. Et donc, quel est l'état d'esprit des Français? Et d'abord, avant l'état d'esprit, dites-moi un peu, comment ça fonctionne? On n'ouvre pas tout d'un coup. Y a les écoles, il y a les restaurants, il y a le reste. Expliquez-nous un peu comment les choses se présentent chez vous.
Bon, c'est nébuleux, cher Nick Payne. En tout cas, c'est variable en fonction de la couleur. Ici, avec vous l'avez dit, hein, les rouges, les régions, rouge, vert, orange. Et puis ensuite, en fait, grosso modo, l'idée, c'est qu'on a envie que les gens aillent bosser. C'est l'idée, finalement, la trame principale du gouvernement. C'est que l'économie est en train de se casser la gueule, passez-moi l'expression un peu triviale. Donc on essaye finalement d'ouvrir les vannes, mais les vannes qui vont amener les gens vers le travail. Par contre, restaurants, cafés, bars et tout ce qu'on appelle le lieu d'aisance par le gouvernement ne sera toujours pas ouvert, ça sera décidé fin mai. Donc vous voyez que on se retrouve là dans une situation aujourd'hui où les gens ne savent pas trop bien comment ça va se passer, c'est-à-dire que les gens qui peuvent faire du télétravail, vous savez, c'est que la classe de gens cadres sup qui peut faire du travailler du télétravail, eux sont appelés à rester chez eux. Par contre, les autres, ceux qui sont manutentionnaires, ceux qui sont caissiers, ceux qui font tourner la France, eux, ben, ils vont retourner au travail sans trop savoir ce qu'il en est et sans trop connaître les risques sanitaires qu'ils pourraient rencontrer dès lundi matin. Et dans ce cas-là aussi, les transports en commun seront ouverts. Donc vous imaginez les polémiques. Vous n'ouvrez pas les bars, les restos et les cafés. Par contre, vous laissez les transports en commun qui pourrait être un vecteur assez important de propagation. Donc, vous voyez, Nick, on est quand même entre deux eaux en ce moment. Et puis, il y a une série, une farandole, un festival de polémiques qui saisit le gouvernement, qui frappe le gouvernement, et qui auto-flagelle le gouvernement depuis très longtemps. Et il y a toujours une polémique par jour aujourd'hui, voire deux. Donc, tout ça est très, très flou. Et pour vous dire, les parents, pour venir aux écoles, les parents actuellement sont très partagés sur le fait de remettre leurs enfants à l'école, donc ce lundi matin 11 mai.
Parlons-en une seconde des enfants à l'école, Nicolas Vidal. On parle des enfants jusqu'à quel âge là? On n'ouvre pas les universités ou les lycées?
Ni les lycées, les collèges, ni les lycées-collèges. Là, ça sera vraiment les petites sections qui vont rentrer. Voilà, donc on va se retrouver sur ces bases-là, les primaires notamment aussi. Donc charge aux maires, parce que l'État se responsabilise des maires, se déresponsabilise et met les maires en avant en disant, mais voilà, on vous a envoyé le formulaire de 62 pages pour mettre en avant toute une série de mesures pour ouvrir les écoles. Donc, grosso modo, débrouillez-vous avec ça. Donc ça aussi, ça pose un vrai problème, parce qu'imaginez que le maire d'une petite commune qui doit faire face à même des moitiés de classe doit mettre des marquages au sol, doit espacer les tables, doit espacer les chaises, doit avoir du personnel qui va être là pour les accueillir, des professeurs. Donc tout ça est absolument nébuleux actuellement. Et l'idée même, c'est que le gouvernement n'arrive pas à dire que l'ouverture des écoles, c'est pour que les parents, c'est-à-dire que les enfants qui sont pas en âge de pouvoir se garder tout seuls, puissent être amenés à l'école, pour que les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se remettre au boulot.
Avez-vous, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme de scepticisme. Les Français ne sont pas convaincus du bien fondé du déconfinement à ce moment-ci en majorité. Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, les Français, il y a beaucoup. Les Français, surtout, c'est qu'ils ont perdu vraiment confiance, profondément confiance dans la parole publique. Aujourd'hui, il y a trop de polémiques de la part de l'exécutif, même de mensonges, il faut le dire, sur les masques notamment. Et les Français n'ont plus du tout confiance à la parole de l'exécutif, qui se démène comme il peut pour essayer d'aplanir tout ça, mais ça va être très compliqué. Deux petites affaires, Nick, pour vous compreniez mieux. On a su dans le Canard Enchaîné, vous savez, c'est le grand journal satirique ici en France, que, par exemple, l'ambassadeur de France en Chine aurait averti Emmanuel Macron depuis le 27 décembre dernier. Il a averti Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian sur la dangerosité du virus. Et apparemment, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian n'avaient pas prêté cas. Deuxième révélation aujourd'hui, ça vient de tomber, un attaché parlementaire d'Olivier Véran. Olivier Véran, c'est le ministre de la Santé. Donc cet attaché parlementaire, il aurait voulu bénéficier d'une commission d'apporteurs d'affaires lors de l'achat de masques FFP2 en pleine pénurie de protection. Voilà deux exemples probants qui montrent qu'aujourd'hui, les coups pleuvent de partout sur l'exécutif. Et je ne sais pas si on va entendre parler, parce qu'il y a quand même une loi d'urgence sanitaire qui a été votée dans la nuit du 5 au 6 mai, qui est extrêmement grave, qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il y a véritablement un recul en France, je le dis, je pèse les mots, les libertés publiques manifestent, et c'est extrêmement inquiétant pour un pays comme la France, même sous couvert d'urgence sanitaire, même pour protéger la population, il y a quand même aujourd'hui une loi d'urgence sanitaire qui fait 7 articles, qui commence vraiment à poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur des libertés publiques. Là, je parle de libertés publiques, donc c'est quand même un pan assez grave, et c'est quand même l'essence de notre France qui est tournée essentiellement vers la liberté des uns et des autres. Donc vous voyez, l'affaire est très complexe ici, et on n'est pas au bout de nos surprises, mais je vais remplacer surprise par peine.
En même temps, vous nous décrivez, Nicolas Vidal, des écueils, des problèmes qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on affronte ici, par exemple, ou ailleurs en Occident. Comment se fait-il? Alors, je pense à la valse hésitation sur les masques et le plus ou moins mensonge là sur le fait de la nécessité de le porter ou non. Puis ensuite, les confinements, déconfinements, reconfinements, reculades et autres hésitations. Du genre, c'est pas unique à la France. Ça, comment expliquez-vous que chez vous, vous êtes sans doute là, à l'heure actuelle, le pays dans lequel on apprécie le moins la gestion de crise du gouvernement?
Parce que le mensonge ne passe pas. Ce recul des libertés publiques, effectivement, est très, très, très problématique. Il y a aussi, manifestement, un mépris du peuple. Je pèse mes mots. Quand Sibeth Ndiaye, qui n'est qu'autre que la porte-parole du gouvernement, nous dit il y a un mois et demi, ne faut pas porter des masques. De toute façon, les Français ne sauront pas les mettre. Et puis aujourd'hui, qui nous dit il faut absolument porter des masques, ça va être obligatoire. Même, vous allez être amendé, Nick. Si lundi matin, vous sortez dans les transports en commun sans masque et sans attestation officielle, vous serez amendé de 135 euros. Et si vous recidivez 3 fois, cher ami, vous serez mis en garde à vue et peut-être avec une détention à la clé. Donc vous voyez quand même, on est sur cet ordre-là aujourd'hui d'idées en France, et c'est pour nous, c'est quand même assez inquiétant, que ce soit journaliste, même opposition politique, les médecins également, on peut en parler. Et puis une chose importante aussi, il y a aussi dans les tuyaux, c'était dans les tuyaux, une loi d'amnistie qui pouvait prévoir finalement que nul ne pourrait voir sa responsabilité pénale engagée sur la crise sanitaire. Donc finalement...
Parmi les politiques, vous voulez dire
Exactement. Alors c'était à l'attention des maires, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le maire, qui aurait ouvert son école, il y aurait eu des cas de coronavirus, un cluster, vous savez, ce mot anglophone que vous connaissez bien. Moi, je préfère parler de foyer. Si jamais il y avait eu des maladies graves ou des décès, la famille en question aurait pu se retourner contre le maire. Donc là, le gouvernement a dit... on va faire une espèce de loi d'amnistie, mais ça a été finalement élargi à toute une série de gens, aux fonctionnaires, et donc ça a créé un tollé absolu, parce que finalement, les membres du gouvernement ont voulu, à un moment donné, très certainement, se dire, bon, il faut savoir qu'il y a 65 plaintes aujourd'hui qui sont posées contre certains membres de l'exécutif. 65 plaintes, et des collectifs de médecins aussi qui portent plainte contre le gouvernement. C'est unique, c'est historique. Vous imaginez une partie de la population, petite partie de la population, qui aujourd'hui se porte plainte contre son propre gouvernement.
Il nous reste 2 ou 3 minutes, Nicolas Vidal. Parlons un instant de l'Europe. Prenons un peu de recul. On a l'impression qu'au fil de cette crise, l'Europe a disparu. On entend bien parler de cette espèce de projet de recherche, recovery, discovery et autres qui boiteux. Les pays ne veulent pas tous s'investir à part égale. On a l'impression que les Français sont un peu seuls là-dedans. Y a un échec ou la démonstration de quelque chose ici, non?
Alors, rapidement, sur la crise de la gestion, sur la crise purement sanitaire, il n'y a eu aucun travaux de l'Europe. Une image très simple, quand l'Italie était frappée très durement, notamment dans la région de Bergame, nous avons vu effectivement des camions militaires russes traverser l'Italie pour aller aider les Italiens. Donc ça a été une image dévastatrice qu'on a très peu vue dans les médias français d'ailleurs, hein, au passage. Mais sur le plan politique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Eurogroupe est en train de vouloir mettre en place un plan de relance de 540 milliards d'euros pour la première tranche. Voilà. Personne ne s'entend, et encore moins les Allemands, sous couvert du paravent des Néerlandais, qui forment finalement cette Europe du Nord, hein, ces pays qui sont préservés, qui vont moins souffrir finalement de la crise, et surtout extrêmement important. Il s'est passé que la Cour de justice de Karlsruhe en Allemagne a signifié à la Commission européenne que finalement il y avait un primat des lois allemandes sur la Constitution européenne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne est en train d'affirmer de plus en plus que c'est la loi allemande qui prime sur son sol et que la Commission européenne n'a pas trop son mot à dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Allemands, qu'est-ce qu'ils veulent pas? Ils ne veulent pas mutualiser les dettes, ils ne veulent pas payer pour l'Europe du Sud, les pays du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. On est en train de voir une Europe qui est en train de se désagréger tous les jours un peu plus avec des conflits extrêmement durs. Et politiquement, ce qu'on aurait pu voir comme un Italexit ou un Frexit, on peut imaginer aujourd'hui, très sincèrement, une peine que l'Europe craque du côté du Rhin par l'Allemagne qui pourrait, à un moment donné, qui ne veut plus cracher au bassinet, comme on dit vulgairement, et qui veut continuer parce qu'elle a quand même, elle est forte, l'Allemagne, c'est la locomotive de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'Allemagne, elle est en train finalement de taper du poing sur la table et elle ne veut pas cracher au bassinet, donc elle est en train gentiment de s'écarter de l'Union européenne. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est un champ de ruines, et quand on a vu Ursula von der Leyen nous faire des vidéos il y a un mois et demi pour nous montrer comment se laver les mains, on peut se poser des questions sur la pertinence de cette espèce de monstre d'onde froid, un Léviathan apolitique total.
Nicolas Vidal, en direct de Paris, directeur patron de Putsch Media, merci beaucoup de nous avoir communiqué ces informations. On vous souhaite une belle journée à Paris. Il fait beau chez vous?
Il pleut aujourd'hui, Nick. Il pleut.
Voilà. Consolez-vous, il neigeait ici hier. Allez, continuez. Oui, et bon déconfinement. Et à une prochaine.
C'était Nicolas. Honneur à vous.
Oui, bonne merci.
Journée, au revoir.
C'était Nicolas Vidal en direct de Paris. Merci à tous nos invités, Nima Machouf, Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard également. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous chaque samedi à midi pour cette spéciale de société. Nick Payne qui vous dit à samedi prochain.